Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de cinéphiles sur Studio ZF 91.1 FM. Aujourd'hui, on est là pour, pas pour parler de long métrage, mais cette fois-ci pour parler de court métrage, de 4 courts métrages, parce que le jeudi 11 janvier, à partir de 20h, pour le partage d'une galette des rois, et ensuite à 20h30, pour la présentation de 4 courts métrages. 4 courts métrages qui ont une thématique commune, vu que c'est 4. Film réalisé par des cinéastes dont nous avons présenté leur dernier film sur la saison 2022-2023. Pour parler de ces 4 courts-métrages que nous avons vus ensemble et que nous avons choisis tous ensemble au sein de l'association Cinéphile, j'ai deux bénévoles avec moi, j'ai Martine, bonjour Martine.
Bonjour, bonne année.
Bonne année, bien sûr, bonne année, mais bonjour Guillaume.
Bonjour, bonne année.
Bonne année, évidemment, bonne année à tous les auditeurs qui nous écoutent. J'ai manqué mon devoir en vous le disant en début d'émission. Donc bonne année à tout le monde. Voilà, on enchaîne sur ces 4 courts-métrages. Alors déjà, je vous mets une petite question un peu à vous deux, sur avez-vous apprécié le visionnage de tous ces courts-métrages? Est-ce qu'il y a plein de belles choses qui ont été découvertes parmi des réalisateurs dont on connaissait déjà, justement? Est-ce que ça a été sympa de découvrir les premières œuvres de réalisateurs dont on a soutenu le travail durant cette année?
Alors clairement, d'abord, il y avait beaucoup de réalisateurs qu'on a passés l'année dernière, et donc on n'a pas pu tous les citer et montrer autant de courts-métrages qu'on aurait voulu. Les 4 qu'on a retenus, on vous le dit tout de suite, c'est pas les 4 réalisateurs qu'on a préférés l'année dernière. C'est les 4 courts-métrages qui, dans le lot, nous ont semblé les plus complémentaires d'une vision transversale de ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc, effectivement, il y aura du jeune. Il y aura des talents déjà confirmés depuis un certain temps. Il y aura des films comiques, il y aura des films pas du tout comiques, mais plein de réflexions sur l'actualité du monde. Il y a toute une palette de sentiments, de sensations. On a essayé, effectivement, de chercher une programmation de court-métrage qui tienne sur un créneau de 2 heures et qui montre quand même comment nos choix de l'année dernière pouvaient aussi commencer une nouvelle année.
Ouais. Ben c'est vrai qu'on a passé, on était à peu près une petite dizaine à visionner une dizaine de courts-métrages. Donc il y avait des courts de Claire Simon, des courts de Claire Doyon. Et donc, évidemment, on n'était pas tous d'accord parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, mais ça, c'est le propre du spectateur. Et donc là, il y a eu un consensus. Donc voilà, c'est le résultat d'un consensus.
D'ailleurs, voilà, on va, sans plus tarder, on va annoncer les 4 courts-métrages que nous avons sélectionnés. Tout d'abord, il y a Tous à table du Urs et la Meilleure. On avait présenté La Ligne d'elle au mois de janvier 2023. Ensuite, ça sera Le Silence d'Alias Gary, dont on avait présenté le film Juste une nuit en décembre 2022. Ensuite, il y aura Jay parmi les hommes de Xenograton, dont nous avons passé au mois de mai son film Le Paradis. Et pour finir, nous aurons le film de Martin Jova, Le sang de la veine, qui avait réalisé Grand Paris, que nous avons présenté, qui est un film qu'on avait beaucoup aimé défendre. Et c'est le cas de son court-métrage, son film dénotait un peu dans ce qu'on pouvait proposer habituellement à cinéphile, qui était parce que c'est Grand Paris était une comédie, ouais, très plutôt ciblée, je dirais, pour les jeunes, enfin en tout cas qui parlait d'une certaine jeunesse. Et je trouve que Le sang de la veine dénote aussi un peu des 4 courts-métrages qu'on propose. C'est en partie pour ça qu'on propose en dernier, parce que on est aussi sur une comédie, Martin Jova, c'est un réalisateur qui a un univers, mais on en reparlera quand on en sera à lui. Donc on va commencer sans plus tarder à parler du premier film qu'on diffusera cette soirée-là, c'est-à-dire Tous à table d'Urs la Meilleure, qui est sorti, un court-métrage qui est sorti en 2001. C'est le plus ancien des courts-métrages qu'on présentera. La plupart ne sont pas très vieux. Ils datent entre 2019 et 2022 en peu près. Et Tous à table est le seul qui est un peu plus vieux que les autres. Donc voilà, 2001. C'est un de ses premiers courts-métrages. Elle n'avait pas encore fait de long-métrage. Urs la Meilleure, voilà, je la présente un petit peu parce que c'est une réalisatrice qu'on a toujours assez défendue à Cinéphile. Voilà, on avait présenté L'Enfant d'en haut à Cinéphile, qui était un film aussi qui avait fait pas mal parler. Donc c'est une réalisatrice qui contrairement peut-être à ceux dont on va parler, qui sont notamment Zeno Graton et Martin Jova, qui sont encore des très jeunes auteurs qui font encore un peu leur place dans le monde du cinéma français et francophone, parce que Zeno Graton est un réalisateur belge. Mais Ursula Meyer a déjà une place assez installée quand même dans le cinéma français, francophone aussi, parce qu'elle est suisse. Et voilà, donc on va parler un peu plus de son film. De quoi parle le film ? Je ne sais pas si, Guillaume, tu te souviens.
C'est une fête d'anniversaire.
Ouais.
Tout simplement, c'est une fête d'anniversaire. Mmh. Filmé dans un 16 mm sans aucun doute, avec un grain très particulier. Et cette fête d'anniversaire où tout le monde devrait être heureux, où tout devrait bien se passer, tout se passe très bien pour le spectateur, parce que c'est une vraie comédie, un régal. Ça débute comme tout repas d'anniversaire, avec beaucoup de monde autour de la table, des couples qui ne se supportent plus mais qui sont encore ensemble, des gens qui aimeraient bien draguer la voisine ou le voisin, et puis un homme à qui c'est le grand jour et on voudrait lui fêter son anniversaire, sauf que cet homme pose au moment du dessert une devinette et à tous les convives de répondre à la devinette avant de manger la part de gâteau. Et donc, ça se passe pas comme prévu, parce que personne ne comprend la devinette. Et c'est ça qui est très drôle.
Allez, un petit peu.
Ça se passe en Amazonie.
Laurence.
Ouais, je t'écoute, moi.
Ah, tu m'entends.
Vas-y, Jo.
Ça se passe.
On écoute, il a besoin de parler.
Ça se passe en Amazonie, sur une souche d'arbres.
Merci pour ton gâteau.
Il y a trois fourmis qui marchent à la queue leu-leu. Alors, la première dit: je vois pas de fourmis devant moi et j'en vois deux derrière.
Attends, je ne vois pas de fourmis. C'est en Amazonie.
Mais chut, ta gueule. Alors,
putain, t'arrêtes.
Bon, allez, quoi, on l'écoute et que ça soit terminé. Bon. Hein, parce que...
Ça se passe en Amazonie, sur une souche d'arbre. Il y a trois fourmis qui marchent à la queue leu-leu. Alors la première dit: je vois pas de fourmis devant moi et j'en vois deux derrière.
Attends, je ne vois pas de fourmis devant moi.
Et la deuxième, elle en voit une devant, une derrière. Et la troisième, elle en voit deux devant.
C'est comme l'histoire des capons.
Et deux derrière. T'as entendu?
Et quoi? Deux derrière.
La dernière, elle en voit deux devant.
Mais suivez. Alors,
oui, c'est ça.
La première, elle en voit pas devant, elle en voit deux derrière. La deuxième, elle en voit une devant, une derrière. Et la troisième, elle en voit deux devant, deux derrière.
Et il y a trois fourmis.
Voilà.
Et oui, je ne sais pas si Martine, ce que tu en avais pensé.
Oui, c'était... on avait hésité entre deux cours d'Ursula Meyer. Ouais. Il y en avait un, c'était sur la naissance d'un acteur.
Cassé-Moté Klein, naissance d'un acteur, qui est du coup un documentaire sur un des acteurs qui a tourné avec elle.
Qui parle en fait de lui, acteur, quand il était petit. C'était intéressant. Mais en fait, on a quand même opté pour Tous à table. Oui, c'est un noir et blanc assez brut. Faut dire que ça date un peu quand même, il y a 20 ans. Je ne sais pas si on fait encore des plans arrosés à table d'anniversaire de cette façon-là, en se balançant des blagues. Mais
Non, par contre, les films de dîner, c'est un truc qu'on a beaucoup retrouvé dans le cinéma français. C'est les scènes de disputes dans un dîner.
Voilà.
C'est presque devenu un truc qu'on cite dans les clichés du cinéma français.
Exactement.
Voilà. Donc, quelque part, on en est en plein dedans. Mais je trouve que ce n'est pas non plus un film qui va dans les poncifs de ce type de cinéma.
C'est l'anti-Piala,
voilà.
Directement. Piala, il y a toute une agressivité qui se dégage dans chaque plan, alors que là, au contraire, c'est même pour le couple qui se dispute, il y a ce regard amusé pour ces personnes qui cherchent à mener la fête, alors que tout le monde s'emmerde, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont.
Oui, et puis plus c'est arrosé, plus ça devient un peu passionné. Et à la fin, quand même, on a, dans une autre forme cinématographique, on a le résultat quand même de l'énigme, qui est une toute petite énigme de maternelle, on va dire.
Oui, et puis de toute façon, l'énigme, à mon sens, elle est mise comme un prétexte à finalement montrer... comme dans beaucoup de familles, il y a des non-dits qui sont faits et qui, à un moment donné, il y a des non-dits qui vont exploser sous prétexte de cette devinette qui va amener à des disputes, à des choses comme ça.
Voilà.
Et ça sert du coup deux portraits d'une famille dysfonctionnelle, qui est en fait une des thématiques d'Ursula Meyer, qui était déjà la thématique de son dernier film, La Ligne. Ça parle
de... Et puis même son premier, avec Isabelle Huppert et Olivier Gourmet, je ne me rappelle plus du titre.
J'ai oublié sur le titre,
Ça, une famille complètement à la marge.
Donc on retrouve les thématiques de son cinéma, en fait. Donc si vous êtes familier du cinéma de Ursula Meyer, vous retrouverez dans ce court-métrage... tout ce qui fait un peu l'essence des thématiques de son cinéma. Et c'est peut-être aussi pour ça quelque part qu'on a choisi ce film plutôt que son documentaire sur Casimo Teclin qui est très bon, mais qui, je trouve, tous à table résume parfaitement, je trouve, le cinéma de la réalisatrice. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le court métrage.
Il faut aller le voir.
Ce sera le premier cours qu'on vous présentera lors de cette soirée. Arrivera le suivant qui traite aussi de thématiques assez assez importantes, assez graves. C'est Le silence d'Elias Gary, dont on avait présenté le film Juste une nuit, et qui est un film qui avait été défendu par Amnesty International également. Quand on l'avait présenté, il y avait eu un ciné-débat à l'intérieur, et c'est un film moi c'est le premier film que j'ai vu de la liste de courts-métrages. Et donc tout de suite, ça a été tout de suite un de mes coups de cœur. J'ai dit celui-là, j'aimerais bien qu'il soit, qu'il soit choisi. Je ne sais pas si l'un de vous veut le résumer, mais
en tout cas, il y a eu l'unanimité. C'était le film qu'il fallait avoir. Il n'est pas francophone, il est même italien, je crois, au niveau de la production.
Le film était, il se passe en Italie d'ailleurs.
Il
se passe en Italie. Du coup, la production est italienne.
Et Ali Asghari nous présente l'histoire d'une jeune fille et de sa mère en Italie, mais elles viennent de Turquie, je crois, ou
elles
de Syrie,
kurdes.
Peut-être. En tout cas, c'est
elles
des Kurdes.
Elles sont Kurdes,
Elles sont Kurdes. Et la mère est vraisemblablement malade. On ne sait pas jusqu'où elle est malade. Elle va voir le docteur. Il se trouve qu'elle ne parle pas l'italien et que c'est sa fille qui va devoir être la traductrice. Or, quand le médecin commence à faire des analyses, elle s'aperçoit que les résultats sont vraiment pas bons et elle aimerait bien que la fille, la fille demande un peu plus d'examen pour la mère. Et là, il y a un destin effectivement qui fait que la jeune fille se pose la question de savoir jusqu'où elle doit être mise au courant de ce qui arrive à sa mère. Et elle n'a pas forcément envie d'entendre plus que ce qu'elle a déjà entendu.
Does it hurt here? Do you feel pain? Does it hurt? Can you ask her if it hurts here, where I'm touching?
What?
Can you ask her if it hurts, if she feels pain here?
Do you call it because it's a big deal? Is she going to push a big deal?
Because
she says no. She feels pain at first point you touch.
She can put her clothes back on.
C'est-à-dire le silence pour elle, parce que c'est aussi le titre, c'est aussi une façon de se protéger pour garder sa place d'enfant et puis pour ne pas pouvoir dire à sa mère, pour ne pas pouvoir traduire la gravité du discours médical. Et c'est, tout se passe dans un décor très très épuré, en fait.
C'est un hôpital.
C'est un hôpital, mais ce silence, il est extrêmement bien marqué, je trouve, au niveau cinématographique, parce qu'il n'y a pas seulement, c'est pas seulement une histoire de son, c'est aussi une histoire de plan, de travelling, une histoire de cinéma, quoi. Mmh. Et mis à part la, un peu le thème un peu pathétique de ce film, je trouve qu'il est très, très bien mis en scène et très bien... son rythme épouse vraiment la qualité du silence et la lourdeur du silence de cette petite fille.
Oui, il n'y a pas de regard moral, surtout. Il n'y a pas de parti pris. Est-ce qu'on doit se mettre dans la tête du médecin? Est-ce qu'on doit se mettre dans la tête de la mère? Mmh. Dans la tête de la fille? Non, tout est perceptible. Mmh. Les trois points de vue sont là. On sent bien que la communication, elle est au-delà des mots. Mmh.
Mmh. Bah, et puis oui, le titre du film porte bien son nom, mais donc, comme un peu tous à table, nous aussi dans une thématique mais montrer de façon très différente sur les choses qu'on ne se dit pas au sein d'une même famille.
Voilà,
et alors là, c'est sur un cas très différent parce que c'est pas tout à fait le même type de relation. On est justement sur des non-dits parce qu'il y a une volonté, je pense, aussi il y a un amour sincère qui est là aussi, et que oui. Le silence est aussi quelque part une preuve, je pense, d'amour entre sa mère et sa fille, parce que voilà, ça la fille a je pense, on lui donne une grande responsabilité, en fait.
Oui, parce que ça traduit ouais. aussi ce qui se passe pour les personnes migrantes, c'est-à-dire que ce sont les enfants qui apprennent beaucoup oui. plus vite la langue, qui vont devenir presque l'adulte de leurs parents, puisque c'est eux qui sont traducteurs.
C'est ça.
Et donc, c'est extrêmement lourd.
Oui, et je trouve que ce qui est très beau dans le film, c'est-à-dire que le film, avec ça, c'est, je crois que c'est le film le plus court qu'on présente.
Oui, 14 minutes.
Et je trouve qu'en 15 minutes, le film traite énormément de thématiques de façon très juste. À mon sens, tu as parlé de pathos, parce que effectivement, le sujet pourrait paraître pathos, mais à mon sens, il ne l'est pas du tout dans son traitement. On n'a pas les violons, on n'a pas... l'ambiance sonore du film joue aussi beaucoup sur le silence également. Mmh. Donc il y a un vrai travail là-dessus, et c'est aussi un film, je trouve, qui parle d'une... Oui, de la fin de l'enfance, en fait, parce que je pense que on est dans nos vies, et on a toujours, je pense, un marqueur de quelque chose qu'on marque comme qu'on peut marquer comme une fin de l'enfance. C'est le moment où, ça y est, l'enfance se termine. Ça peut être, plus ou moins tard selon les personnes. Et là, à mon sens, ça filme cet événement-là. Un événement qui montre que c'est ce qui est en train de vivre cette petite fille-là. Ouais. C'est de dire que l'enfance se termine. Et voilà, il y a une importance, une responsabilité et... un vécu qui n'est pas propre à celui que doit vivre un enfant, qu'elle doit faire là, et à mon sens, ça signe une fin d'enfance là, et je trouve que c'est montré avec énormément de pudeur, je trouve, et de bienveillance et de poésie, voilà.
C'est une fin d'enfance contre son gré.
Oui.
Et en fait, moi je me disais, elle fait silence parce qu'elle ne veut pas entendre. En fait, il y a ça aussi. Elle aimerait bien se boucher les oreilles. Mmh. Et donc, du coup, elle se bouche la bouche.
Et je trouve que malgré le silence, les peu de mots qu'elles s'adressent l'une à l'autre, je trouve que c'est vraiment beau la façon dont on ressent l'amour quand même de l'une envers l'autre, justement par le fait qu'elles ne se disent pas.
Parce qu'elles sont silencieuses. Parce qu'elles sont silencieuses aussi.
Ça, voilà. Mais même au-delà des mots, il n'y a pas de, de câlin, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a aussi une relation qui pourrait paraître froide, mais je trouve qu'il arrive quand même à faire ressentir toutes les émotions qu'elles ressentent l'une pour l'autre entre mère et fille. Voilà.
Très beau film.
Je ne sais pas si vous avez un truc à rajouter en plus.
Non, c'est simplement que si on fait le raccord avec son dernier film qu'on a passé, Juste une nuit, il y a aussi une thématique mère-enfant.
Oui. Moi, je ne l'ai pas vu le film, donc si vous pouvez...
Tous les documentaires, tous les courts-métrages qui passent dans notre sélection, ce qui est intéressant, c'est ça.
Bah, oui.
C'est que si on a vu les derniers films des réalisateurs, on retrouve là une genèse, un trait unaire, quelque chose qui est en travail et qui devient un peu une thématique, un motif qui va rester Et qui va fonder le réalisateur aussi.
C'est ce qui est intéressant dans les premières œuvres, et c'est ce qui est déjà intéressant dans les premiers films, mais c'est encore plus intéressant de le découvrir dans les premiers courts-métrages, parce que c'est là que comment se dessine le style et les thématiques des cinéastes en question.
Ouais. Là, on est passé un peu par les montagnes russes, on va bien rire au premier film, on va se replonger dans un état de méditation et dans un état un peu triste, il faut bien dire, au deuxième film, et on repart sur un troisième film où là, les hommes virils s'affirment.
Oui, bah, c'est à mon sens toute la thématique du film. Hein.
Le film, il s'appelle comment?
Le film s'appelle « J'ai parmi les hommes » de Zénograton qui nous avait proposé son film « Le Paradis », qui est un film que j'avais... Alors, je suis le seul à l'avoir vu de Détroit, mais c'est un film que j'avais beaucoup aimé, qui était un film qui parlait de jeunes adolescents dans une maison de correction et qui montrait une histoire d'amour naissante entre deux jeunes adolescents, qui a parlé de la question de la virilité. C'était une question qui était posée aussi dans Le Paradis, c'est-à-dire d'une image qu'on se donne, dont on pense que certains adolescents doivent correspondre, et qui en fait la réalité montre que les choses sont quand même bien plus nuancées que ça, et en fait on n'oublie pas à rentrer dans des petites cases toutes faites qu'on nous dresse, et que finalement voilà, on est êtres humains par entière avec beaucoup de choses différentes là-dedans, et c'est ce que traite le film Le Paradis, et c'est ce qui à mon sens traite à fond le film Jay parmi les hommes. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jay. Je vais essayer de résumer, mais il y a pas forcément une trame précise sur le truc. C'est l'histoire de ce jeune garçon et du milieu dans lequel il vit, de la relation qu'il a avec son père, de la relation qu'il aura avec une jeune fille, et de tous les questionnements que vont se poser l'image qu'on lui demande d'avoir à ce jeune Jay, parce qu'il voilà, il vit dans un milieu très masculin, très viril, on va dire. Il est beaucoup avec son père et dans le travail qu'effectue son père dans une usine de la métallurgie, je crois, j'ai l'impression, de mes souvenirs.
C'est assez dur, quoi.
Voilà, donc assez dur.
Le 19e siècle.
Ouais, du coup, dans une ambiance très masculine et assez virile, voilà, dans son ambiance. Et ça montre une certaine déconstruction sur la personnalité que Jay essaie de se construire, et comment aussi son père va au fur et à mesure le percevoir, en fait, et essayer de voir qui est vraiment son fils. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé, si tu as des choses à rajouter là-dessus.
Si, tout à fait. Jay!
Fous de ma gueule?
Lâche-moi!
Pourquoi t'es pas à l'école?
C'est les vacances.
Encore? Vous êtes toujours en vacances, si vous. Qu'est-ce que tu fous avec ça?
C'est pas vrai, quoi.
Ils vous donnent pas des devoirs pour vous occuper pendant qu'on bosse? Qu'est-ce que tu fous avec ces merdes?
Je veux plus te voir ici, est-ce que c'est clair?
Papa, je peux manger avec vous?
Bon, alors effectivement, Jay est avec son père parce que son père, pour une raison ou pour une autre, n'est plus avec sa femme. Donc déjà, il est dans une famille monoparentale masculine. Ses modèles, c'est son père et puis les collègues de son père. Ses collègues font une pression très forte sur Jay lors d'un repas parce qu'à 14 ans, Jay a toute la vie devant lui. Et si toute la vie devant lui, c'est sans aucun doute une vie avec une copine, et autant le solliciter tout de suite et lui dire « présente-nous ta copine », etc. Or, on voit bien que Jay a encore une incertitude quant à son devenir et ses préférences sur le genre sexuel, etc. Et donc, le moyen de faire plaisir, surtout aux collègues, parce que le père est moins dupe quand même. Oui. Le regard du père est un regard un peu protecteur. Il lui montre quels sont les codes de la masculinité, mais incarner. C'est une masculinité toxique. Et il lui fait comprendre. Il y a la virée en voiture, le travail un peu assourdissant dans tous les sens du terme. Et donc, effectivement, ce qui se noue entre les deux, c'est aussi peut-être la possibilité qui est offerte à un jeune adolescent de 14 ans d'aller au-delà des clichés sociaux du vieux monde, comme on dit en ce moment, et peut-être de s'ouvrir à un nouveau monde qu'il sera obligé de se créer.
Ça m'a fait penser un peu à une BD, parce que c'est très graphique.
Oui.
Les couleurs, elles sont... on a l'impression qu'elles ont été traitées aussi par ordinateur. Enfin, ça je sais pas. Ça m'a fait penser à une bande dessinée en fait. Ce film, la façon dont c'est filmé, la couleur, le montage, un peu sec comme ça. Mais c'est vrai que le thème, moi je suis une femme. Hein. cet univers d'hommes, j'espère que c'est l'ancien monde. Effectivement.
Non, mais...
Parce qu'en plus aussi, ce truc par rapport à la femme, il faut être amoureux, il faut draguer une fille en fait pour être un homme. C'est un peu le message des copains de l'usine.
Oui, des copains d'usine. Ouais.
Le père, il est un peu plus réservé peut-être, mais en même temps, il est pris entre deux feux, quoi, entre l'enfance de son fils, où il sait bien que ce n'est pas encore la question. Et puis, la pression de la virilité, la masculinité de ses collègues. Et en fait, tout repose après sur une supercherie. Parce que, bon, on ne vous révèle pas
Oui, on ne va pas dire la fin du film, mais...
Mais en fait, c'est aussi ça va devenir un mensonge de la part du jeune garçon. Ce sera une façon pour lui de s'en tirer et de garder encore un peu d'enfance, quoi. Mais bon, la fin... J'ai bien aimé la fin.
Mais moi, je ne crois pas qu'il reste dans l'enfance, justement. Et c'est pour ça que je parle de créer le nouveau monde.
Oui, enfin, en tout cas, il se démarque de quelque chose.
Oui, moi, ce que j'aime dans le film, alors vous avez parlé déjà, je trouve qu'effectivement, le père essaie d'avoir un point de vue, mais qui lui aussi, tu sens qu'il est un peu matrixé par des années de codification de genre, on va dire, de patriarcat. Mais en tout cas, un milieu dans lequel lui, il a été complètement épousé et dans lequel il a appris des valeurs. Et c'est toujours un peu difficile de déconstruire les valeurs sur lesquelles on a grandi et appris. Et lui, il est toujours un peu sous l'influence de ce milieu dans lequel il a été éduqué, très certainement, et dans lequel il vit aujourd'hui. Mais voilà, ce qui est beau aussi, au-delà du fils, c'est aussi comment le père, il va avoir une certaine ouverture d'esprit en fait sur les codes et les carcans qu'on lui a dressés. Et tu avais parlé de Jack qui se pose des questions sur son genre et ses sexualités, et je pense que c'est plus fin que ça en fait, parce que il y a pas de... On ne dit pas que Jay est homosexuel, on dit pas que Jay a des soucis avec son genre, c'est pas dit clairement. On sait juste que Jay se reconnaît pas dans la description très viriliste que le père et l'entourage de son père lui propose. C'est à mon sens, elle est là surtout la thématique du film.
Il y a débat parce que quand même son premier réflexe, c'est, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais c'est d'aller vérifier si c'est pas ça en fait, de devenir adulte.
Mais il se pose. Oui, il y a l'idée. Mais je suis pas sûr que ça soit forcément. C'est plus une idée de que forcément la vie d'un homme doit être, on doit draguer une fille, on doit être avec une fille comme ça. Et c'est plus ça qui pose comme question, plus qu'une identité de genre ou sexuelle précise. Et peut-être, mais c'est plus un questionnement sur est-ce que le rôle d'un homme doit forcément être celui-là, au-delà. Voilà. Et je trouve ça fin parce que je trouve que c'est en plus des choses dans lesquelles peut-être beaucoup d'hommes vont peut-être un peu se retrouver ou se sont retrouvés dans cette situation de ne pas correspondre à des codes qu'on donne sans qu'ils soient forcément des personnes homosexuelles ou transgenres, mais dans lesquelles ils ont ressenti plusieurs hommes, plusieurs garçons ont ressenti une certaine pression d'entourage pour qu'ils correspondent au genre, au code du genre dans lequel ils sont censés appartenir. Voilà. Et je pense que le film questionne ça de façon assez fine, et je trouve que c'est une question qui n'est pas énormément posée dans le cinéma. On pose énormément la question du genre est en ce moment extrêmement mis en thématique au cinéma, beaucoup. Mais juste se dire qu'on peut être... on peut être hétérosexuel, etc., et ne pas se reconnaître dans une image virile. C'est, à mon sens, une thématique que je trouve peut-être moins traité précisément sur cet axe, voilà.
Oui, c'est ça, je suis d'accord. C'est pas tellement le. Est-ce que où est-ce qu'il en est avec son genre ? Est-ce qu'il est plutôt attiré par les garçons, etc. Mais ce film, il dénonce la domination masculine sur les femmes, parce que d'ailleurs même la jeune fille qui va finir par apparaître à la fin, elle est hyper sexualisée. Enfin, je veux dire, elle est dans les clichés que les hommes se représente des femmes qui a des clichés qui sont toujours encore actuellement voilà, c'est devenu le combat des femmes aussi de lutter contre ça, mais c'est plus ça qui va être en question dans le film, je pense, de voir comment les hommes ensemble sont complètement coincés par cette espèce de fantasme d'être, d'être viril et d'être dominant par rapport aux femmes. Et ça révèle ça après.
Je suis d'accord que ça les montre dans une certaine prison, en fait, je trouve, le film. Qui sont enfermés dans une espèce de réaction qu'il faut avoir et qui, en fait, quelque part, c'est pas leur propre pensée finalement qu'ils expriment, peut-être. Et c'est ce qui est montré avec le père, je trouve, qui peut-être là, sa véritable pensée et en tout cas une pensée très personnelle, mais au-delà de choses dans lesquelles il doit obéir au nom d'une je ne sais quelle pression sociale, et ouais, on voit bien que ça s'enferme un peu là-dedans. Tu parlais de domination avec les femmes, et sans dévoiler ce qui se passe à la fin, mais on voit la réaction des hommes face à cette
c'est
jeune fille,
ça,
hein, qui est extrêmement
chérie,
voilà,
du coup ça se retourne un peu contre eux,
oui,
quoi.
Oui. Ouais. Bah, après, c'est presque un peu un piège, eux ne savent pas qu'ils sont piégés, mais nous aussi. Mais voilà.
Et tout ça dans un univers un peu glacé quand même. La pellicule, elle est froide.
Ouais, il y a une photo assez glaciale. Ouais.
Et ça se passe dans quel pays, en fait?
Ça se passe en Belgique. Le film,
en Belgique.
Ouais, Zeno Graton, c'est un réalisateur belge. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur Jay parmi les hommes, sur lequel on a pas mal discuté.
Ça fait assez fin 19e, je trouve, dans la thématique, dans les décors, dans...
D'accord.
Je sais pas, je trouve.
Bon, j'ai pas forcément eu ce ressenti, mais c'est intéressant.
Pas.
D'accord. Et ben, on va passer du coup, si vous avez rien d'autre à rajouter dessus, on va passer au dernier film, Le sang de la veine, de Martin Jova. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est pas notre court-métrage un peu star de la soirée, mais presque un petit peu, parce que c'est un court-métrage qui a fait pas mal parler de lui, Le sang de la veine, il a été présenté à beaucoup de festivals, il est passé sur Arte, sur différentes plateformes aussi, donc c'est un film qui a pas mal tourné, qui a quand même dedans une personne un petit peu connue au nom de William Lebgill, qui était déjà dans le long métrage, enfin qu'on retrouvera ensuite plutôt dans le long métrage du premier long métrage du réalisateur Grand Paris. Il fait un plus petit rôle dans le
on
film.
On l'a invité à Blois.
Martin Jova, qu'on a reçu à Blois. C'est vrai que je suis en train de penser, effectivement, c'est le seul des quatre cinéastes qu'on présente qui a été présent pour présenter son film à Blois en personne. C'était une soirée très très animée d'ailleurs.
Voilà. Elle était animée aussi parce que c'était nos étudiants et nos étudiants de Blois. Il y avait l'école du paysage, il y avait Augustin Thierry, il y avait Desaigne qui était représenté. Ils avaient fait un travail de fond. C'était les ambassadeurs de ce film. Et donc, on prolonge un petit peu cette expérience méta-cinématographique en revenant à la charge avec ce court-métrage.
Par contre, là, c'est tout, là. Tu veux pas bander un peu ?
Ouais, mais j'arrive pas à trouver de son, là, ça me stresse un peu.
Te prends pas la tête, mec, hein, tranquille.
Ouais, grave. Je vais regarder dans mes playlists.
Attends, mec, t'es sérieux, là ?
Quoi ?
Tu veux pas mettre un truc moins romantique, mon petit ? Attends, mais c'est Jules ?
Bah, ouais.
On t'écoute pas, Jules.
Si, on...
Moi, tu te fous de ma gueule ?
Bah non, je me fous pas de ta gueule.
Ah, ouais ? Mais c'est tout pourri, Jules.
Bah, non, c'est mon artiste préféré, en fait. C'est genre... je le kiffe trop. C'est le sang de la veine, en fait. C'est mon modèle dans la vie, ce gars.
Bon, vas-y, bref, mets un autre son. Essaye de demander un peu, s'il te plaît, là, parce que... Miskin, là.
Non, en fait, c'est mort, là.
De quoi ?
Bah, je sais pas, t'es trop nulle comme fille, quoi. T'es archi fermée, en fait.
Ah, tu vas pas me ken parce que j'aime pas Jules ?
Bah ouais. Ouais, je suis sérieux. En fait, je suis un mec, tu vois, j'aime pas qu'on critique Jules comme ça pour rien. Tu vois, j'ai des principes, en fait. J'ai pas que ça à foutre de niquer quelqu'un qui a des goûts de chiottes comme toi, quoi.
Wouah !
T'es mort.
Ok, mec. Bon, bah, merci d'être venu, hein.
Ouais. Dis à plus, ma femme. Bon après-midi.
Oui, tout à fait. Et donc, voilà. De quoi parle ce court-métrage
C'est la même chose que du long-métrage.
Mais un petit peu, on est un petit peu sur des mutandings, c'est-à-dire, voilà, je reparle un petit peu de quoi parlait Grand Paris, c'est-à-dire deux jeunes adolescents, plutôt fumeurs de joint, on va le dire clairement. voilà, ça motive un peu leur journée, disons, et qui vont se retrouver dans une espèce un peu d'aventure située dans le Grand Paris, à travers une sorte de road movie en RER un petit peu, sur lequel ils vont essayer de rentrer dans une aventure un petit peu fantastique, où le fantastique va faire son apparition. Et là, le sang de la veine. Alors, il y a pas vraiment une dimension fantastique dans le film, quoique. Il y a une dimension étrange, en tout cas, un peu.
Une étrangeté. On retrouve dans les deux films.
Voilà. Ouais.
Une poésie étrange.
Ouais.
Mais c'est une poésie de la banlieue, je crois, tout simplement. C'est une image de la banlieue. Et c'est pas dans la partie fantastique, effectivement, que les films se rapprochent. Mais c'est dans cette poésie où, tout d'un coup, un héros jeune, un peu trop sous substance illicite, a une forme de discernement qui échappe au spectateur lambda.
Aller voir ce film, c'est comme fumer un pétard.
Je crois que le raccourci est assez saisissant.
On ne sait plus trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est réel,
c'est
etc.
Pas faux, c'est pas faux.
Donc, si vous ne fumez pas de pétard, allez voir ce film. Ça fera quand même une expérience.
Si vous fumez des pétards, ça peut aussi prolonger le truc. Hein, voilà. Ça peut vous serez dans l'univers, hein, après, voilà. après, au-delà de ça, c'est aussi, alors oui, effectivement, on rigole sur les substances illicites, mais
avec le film aussi, on rigole. C'est une comédie. Et le décalage des personnages avec ce qu'ils vivent est tel qu'on ne peut qu'éclater de rire.
Oui, et puis on retrouve un peu le même style d'humour là-dessus. Et le film joue aussi sur les consommations des personnages. Ça en devient souvent des thématiques dans le film, à un moment donné.
Les consommations sont aussi culturelles, hein,
oui.
Parce que là, dans le court-métrage, on voit bien qu'il y a des rencontres qui se font ou qui se défont à cause des préférences culturelles. Une des préférences culturelles, c'est Jules, ce rappeur marseillais qui fait tant de disques, tant de morceaux par année. On se demande quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et ben, il y a des fans pour qui il faut surtout pas que ça s'arrête. Mais quand ces fans rencontrent une dulcinée grâce à Tinder, bah parfois le match peut devenir cauchemardesque ou pas.
Oui, voilà. J'allais résumer le film. Tu l'as globalement résumé. Voilà, c'est un jeune adulte qui s'appelle Ryan, joué par William Lebgill, qui reçoit un match Tinder avec une jeune fille, va chez elle, s'apprête à faire l'amour et à ce moment-là, il se trouve qu'ils n'ont pas les mêmes goûts musicaux et ça frite. s'en suivre après une discussion autour de ça et des thématiques posées autour de ça, autour du fait est-ce que malgré des goûts culturels extrêmement opposés, est-ce qu'on peut finalement quand même se retrouver dans certaines valeurs, certaines choses, et justement dépasser un peu les a priori qu'on peut se faire sur les goûts culturels de l'un et l'autre. Et je trouve que c'est des questions très intéressantes parce que peut-être dans les relations, c'est des choses qui jouent peut-être un peu trop les univers culturels de chacun. Et le film questionne ça. Est-ce que c'est forcément un frein le fait qu'on soit fan d'un chanteur ou d'un rappeur ou de n'importe quel acteur culturel qui n'est pas du tout dans ce que nous on se fait de l'art, disons. Parce que Jules, pour parler un peu plus précisément de Jules et expliquer le truc, Jules c'est un rappeur qui fait débat parce qu'il y a les fans de Jules, vraiment. C'est-à-dire que C'est Jules, c'est quelqu'un qui parle, qui a su parler à beaucoup de jeunes de cité, on va dire.
C'est un rappeur qui porte du Décathlon et pas du Lacoste. Et oui. Rien que ça, ça dit beaucoup dans le milieu du rap.
Bah, complètement, et c'est quelqu'un qui a un peu bouleversé hein, ce milieu du rap là, en fait, là-dessus. Jules n'était pas forcément sur le côté ultra bling bling. J'ai des manteaux de fourrure et j'ai des belles filles autour de moi en bikini. L'image très cliché qu'on peut se faire du rap, qui à mon sens est quand même un peu fini quand même. C'est une image très années 90, cette image-là. Et non, Jules, c'est quelqu'un qui, au contraire, met en avant beaucoup plus un côté vie de cité. C'est quelqu'un qui, malgré son succès et son argent, vit toujours dans la cité dans laquelle il vit actuellement, à Marseille. Donc c'est quelqu'un qui défend un peu ça et sur lequel beaucoup de gens se sont retrouvés. Voilà, pour expliquer un peu l'univers de Jules pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, les fans de Jules, ils ont du mal à ce qu'on entende des gens critiquer Jules qui, souvent, et ça c'est plutôt vrai, sont des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas écouté Jules, en fait. C'est qu'ont écouté une bribe, etc. Parce que Jules, c'est une voix autotunée, donc c'est assez particulier à écouter. Moi, par exemple, j'y arrive pas. Mais voilà, chacun ses goûts là-dessus. Ce qui va être beau, c'est comment on peut, des fois, voilà, essayer de revenir un peu sur ses positions, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, et le film invoque ça, quelque part. Apprendre à ouvrir son esprit et à comprendre l'un et l'autre. Et je trouve que plus le film avance, plus il y a une poésie qui se... Voilà. Pardon ?
Moi, je croyais que c'était apprendre à ouvrir les bronches, mais...
mais voilà, j'ai beaucoup parlé sur le film. Je ne sais pas si vous voulez un peu plus argumenter sur
non, moi, ouais. c'est la petite pépite de la sélection, parce que c'est là, il y a une note humoristique un peu décalée, et puis ce réalisateur, il a un peu le vent en poupe en ce moment,
et puis c'est la jeunesse, c'est vraiment on regarde demain.
En fait, quand on avait vu son film sélectionné par l'Acide là, ici Grand Paris,
ouais.
On s'aperçoit que c'est toute une bande de copains.
Oui. Hein,
on les retrouve un peu. En fait, ils s'amusent bien, ils ont des idées, ils vont vite.
Oui.
C'est filmé un peu à l'arrache, mais tout se tient debout quand même, et c'est drôle. Donc,
oui, tu l'as filmé à l'arrache, et en même temps, il y a une certaine esthétique précise. Hein, je trouve, Grand Paris et Le Sang de la Veine, il y a une certaine patte esthétique assez commune, notamment dans la photographie. Mmh. Une photographie un peu rose, un peu quelque chose. C'est marrant parce que
un peu psychédélique.
Ouais, quelque chose assez psychédélique, comme c'est ça. Et notamment aussi par la représentation de cette famille, la famille de la jeune fille. Je sais pas trop comment la décrire, mais un peu lunaire,
hallucinante. Voilà. Ouais. En fait, chacun vit sous le même toit, mais chacun vit tout seul. Hein.
Oui, c'est un peu ça.
C'est extraordinaire.
C'est un réel un peu particulier. Ouais.
Voilà, le réalisateur joue aussi dans le film, fait un petit rôle dans le film.
Non, c'est la note finale de cette sélection.
Je trouvais ça bien de terminer cette soirée là-dessus.
On ouvre sur une comédie, on finit sur une comédie. Et entre-temps, on se pose des questions sur notre sensibilité.
Questions graves. Ouais. Graves ou actuelles.
Et puis surtout, c'est la galette des rois avant. Un moyen de reprendre contact en cette nouvelle année où il y aura plein de nouvelles choses à Cinéphile. Mais ça, on vous le dira en temps et en heure. Mais sachez qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements.
Oui, il y a des choses, comme dit Guillaume, c'est des choses dont on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Donc voilà. Suivez-nous bien sur les réseaux sociaux, suivez-nous bien à travers l'émission de radio que vous écoutez en ce moment.
Le travail est parti hier ou avant-hier. Pour les adhérents, il arrivera dans la boîte aux lettres à la fin de la semaine.
Ça fera un peu plus longtemps quand l'émission sera diffusée, mais...
Le travail est devenu mensuel.
Mais en tout cas, oui, il y a un nouveau travelling qui est fait. En tout cas, voilà, il y a plein de nouvelles choses que vous allez découvrir au fur et à mesure, et notamment cette proposition de soirée de court-métrage qui pourquoi pas pourrait se reproduire si vous êtes si ça fonctionne bien et si vous êtes présent jeudi 11 janvier jeudi 11 janvier à partir de 20h pour une galette des rois et dès 20h30 pour visionner les 4 courts-métrages qu'on vous a présentés pendant l'émission. Voilà. Je sais pas si vous avez un petit dernier mot à dire sur cette programmation du 11 janvier. Non,
ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé des cours.
Voilà, exactement, voilà.
Et en fait, il y a une production monstrueuse de courts-métrages.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on n'en passe pas, les lobbyistes pas forcément non plus, et c'est dommage parce qu'il y a un trésor.
Exactement, ouais. Et je trouve qu'il n'y a pas énormément d'occasions en dehors de festivals pour regarder des courts-métrages en salle. Les courts-métrages, on a toujours une façon de les voir. Comme je l'ai dit, Le Sang de la Veine avait été disponible sur Arte, tout ça. Arte diffuse énormément de courts-métrages. On a différentes façons de voir des courts, mais c'est vrai que les voir en salle, c'est pas souvent, et donc à mon sens c'est une occasion à pas rater, et donc j'en profite aussi pour saluer et remercier dans cette émission l'agence du court-métrage qui nous a très gentiment donné des propositions de films qui nous ont proposé tous ces films à visionner et du coup ces films là seront visionnés avec leur accord et leur partenariat. Voilà, donc je tiens à leur faire un petit merci pendant cette émission à l'agence du court-métrage. Je pense que c'est
une agence nationale.
Oui, c'est
qui
ça.
Qui détient les droits sur les courts-métrages.
Qui détient les droits de beaucoup de courts-métrages. Voilà, il y a plusieurs organismes comme ça qui détiennent les droits.
Il y a
Cyclic aussi, voilà. Également. Mais là, c'est avec l'agence du court-métrage avec laquelle on a collaboré pour cette soirée-là. Voilà. Mmh. Est-ce qu'ils avaient beaucoup de choses parmi les courts-métrages proposés par les auteurs qu'on a présentés cette année-là. Ils avaient beaucoup de choses, donc voilà, je tiens à les remercier. Et également, dans les prochains événements à venir à Cinéphile, ça va suivre assez vite en fait le jeudi 11 janvier, parce que le lundi 15 janvier, on a un ciné-débat autour du film Shuttle, un film réalisé par Adi Walter, qui est un film qui a été très fortement apprécié par ceux qui l'ont vu à Cinéphile, dont moi je l'ai vu, mais Martine également l'a vu, qui est un film qu'on conseille fortement, un film à mon sens historiquement assez important, qui parle de choses peut-être que pas assez évoquées dans les livres d'histoire, et qui montre surtout une sorte un peu de capsule temporelle. Les derniers moments en fait avant l'envahissement par l'armée nazie dans un petit village juif en Ukraine. Voilà.
Du bist da der Rom Mendele und alle Zugen ist gewesen der größte Rille in Städtel.
Tata. Hast du kannst auf Verschluss und heim zu kommen?
Zwei Jahre. Es geht kommen neben Schulm oder es geht kommen sich zu gesegnen.
Weißt, als Kischef ist Husser für ein, zwei Jahre.
Wir müssen einen Kischef machen, da. Und einen Film regiert.
Wir haben doch dasselbe Geläufz. Ist das so?
Zerebiona bist du gekommen. Ist das so? Aber sie ist spät. Sie ist meins.
Единственный верный путь – это путь, которым ведет нас товарищ Сталин.
Сейчас!
Sie kommen. Modne Zeiten. Menschen in andere Städte werden verschwinden. Keiner weiß wohin. Es geht vor.
Städte. Vergesst, was es ist.
Menschen, du schleppen sich auch immer dazu, das in der Kisch gessen.
Ich bin pink wie der Mama.
Ich geb gar nicht noch.
Und wie ist deine Mütze Platz?
Mais si tu veux dire rapidement ton ressenti sur le film pour donner les gens envie d'y aller.
C'est vrai qu'on était deux à le voir dans l'association, Jean-Claude et moi, et en fait ça nous a complètement scotché parce que bon, pas aussi par rapport à ce qui se passe dans l'actualité actuellement, mais là avec ce film deux fils de rabbin en fait dans un village qui a été complètement reconstitué au niveau des baraques, c'est un grand décor en fait. Et qui a été en Ukraine, qui a été depuis bombardé. Mais c'était un décor de cinéma un jeune homme qui était promu pour être rabbin, fils de rabbin, revient au village et du coup, il se joue là des intrigues. C'est la guerre, on est en 39, la Pologne n'est pas loin, etc. Et on rentre vraiment, c'est un film très très bavard, et on rentre vraiment dans les racines de la Torah, je trouve, parce que bon, moi je suis pas spécialiste, mais il y a des il y a beaucoup de références dans les conversations, dans les enjeux, même dans les plans sur l'identité juive. Mmh. Voilà.
Ah bah, tout à fait.
Et donc évidemment, on est en 39, les nazis sont pas loin, il va y avoir un enjeu effectivement entre les Russes, parce qu'il y a aussi l'emprise russe communiste mmh. dans ce village, les juifs et les nazis, et donc une confrontation historique, un nœud qui va mal se terminer. Et bah. Donc c'est pour ça que Europe Ensemble va venir un peu soutenir le film et le commenter aussi.
C'est
parce
ça,
que
voilà.
C'est extrêmement riche et... au point de vue de l'histoire. Et du coup, bah, Europe Ensemble, ils vont bien nous aider. À...
Oui, voilà, la soirée est en partenariat avec Europe Ensemble. Alors voilà, comme je dis, c'est le lundi 15 janvier à 20h30. Et le film sera suivi en fait d'un ciné-débat en présence de l'historien Thomas Chopard, voilà, qui est spécialiste en fait des violences envers les Juifs sur la période du XXe siècle. Voilà, qui est spécialiste de cette question-là. Donc il va y avoir plein d'éclaircissements historiques là-dessus. Le film déjà nous donne un bon contexte et tu as très bien résumé les thématiques qui sont présentes dans le film. Et ça, voilà. C'est vraiment un moment de vie en fait avant que tout soit saccagé et avant que l'horreur commence, des moments de vie de questionnement des questionnements historiques de son époque très importants, et mais aussi des questions très universelles aussi sur ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est que croire ou pas croire, aussi qu'est-ce que c'est que d'être éduqué par une éducation religieuse, ce que ça peut nous apporter, ou alors qu'est-ce que c'est aussi d'en sortir, qu'est-ce que ça nous apporte d'en sortir, etc. Enfin, des questions qui n'ont pas forcément de réponse claire, il n'y a pas de bonne réponse, je trouve, mais voilà, des vraies questions qui sont là avant que finalement une réponse claire soit donnée par l'horreur de la guerre, en fait, où finalement y a plus de questions à se poser, tout doit disparaître, et je trouve ça beau le fait qu'on montre que le dialogue et la communication soient mis en opposition avec la barbarie, et c'est toute une façon de faire dans le film que je trouve très intéressante. Mais soyez là le lundi 15 janvier pour en savoir plus, voilà. Et également, je fais aussi une petite lumière sur l'autre film qu'on va passer au mois de janvier à Cinéphile. Il n'y aura pas d'événement dessus, mais voilà, je communique sur le prochain film qui passera. C'est Le Théorème de Marguerite de Anna Novion, et qui est un film qui était sorti au mois de novembre, et là qu'on passe du coup à partir du 11 janvier, voilà, qui est un film qui nous a aussi beaucoup plu. Je vous laisserai découvrir le film au moment de sa sortie au cinéma Les Lobbies. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un au revoir et passez tous d'une très bonne journée et de très bons films, en espérant que vous passez de très bonnes fêtes. Voilà, au revoir,
bye bye.